diable au corps, 5. Marthe, depuis quelques jours, semblait distraite, sans tristesse. Distraite, avec tristesse, j'aurais pu m'expliquer sa préoccupation par l'approche du 15 juillet, date à laquelle il lui faudrait rejoindre la famille de Jacques, et Jacques en convalescence sur une plage de la Manche. À son tour, Marthe se taisait, sursautant au bruit de ma voix. Elle supportait l'insupportable. Visite de famille, avanie, sous-entendu aigre de sa mère, bonhomme de son père, qui lui supposait un amant, sans y croire. Pourquoi supportait-elle tout? Était-ce la suite de mes leçons, lui reprochant d'attacher trop d'importance aux choses, de s'affecter des moindres? Elle paraissait heureuse, mais d'un bonheur singulier, dont elle ressentait de la gêne, et qui m'était désagréable, puisque je ne le partageais pas. Moi qui trouvais enfantin que Marthe découvrit dans mon mutisme une preuve d'indifférence, à mon tour je l'accusais de ne plus m'aimer, parce qu'elle se taisait. Marthe n'osait pas m'apprendre qu'elle était enceinte. J'eusse voulu paraître heureux de cette nouvelle, mais d'abord elle me stupéfia. N'ayant jamais pensé que je pouvais devenir responsable de quoi que ce fût, je l'étais du pire. J'enrageais aussi de n'être pas assez homme pour trouver la chose simple. Marthe n'avait parlé que contrainte. Elle tremblait que cet instant qui devait nous rapprocher nous séparât. Je mimais si bien l'allégresse que ses craintes se dissipèrent. Elle gardait les traces profondes de la morale bourgeoise, et cet enfant signifiait pour elle que Dieu récompenserait notre amour, qu'il ne punissait aucun crime. Alors que Marthe trouvait maintenant dans sa grossesse une raison pour que je ne la quittasse pas, cette grossesse me consterna. À notre âge, il me semblait impossible, injuste, que nous eussions un enfant qui entraverait notre jeunesse. Pour la première fois, je me rendais à des craintes d'ordre matériel. Nous serions abandonnés de nos familles. Aimant déjà cet enfant, c'est par amour que je le repoussais. Je ne me voulais pas responsable de son existence dramatique. J'eusse été moi-même incapable de la vivre. L'instinct est notre guide, un guide qui nous conduit à notre perte. Hier, Marthe redoutait que sa grossesse nous éloignât l'un de l'autre. Aujourd'hui, qu'elle ne m'avait jamais tant aimé, elle croyait que mon amour grandissait comme le sien. Moi, hier, repoussant cet enfant, je commençais aujourd'hui à l'aimer, et j'ôtais de l'amour à Marthe, de même qu'au début de notre liaison, mon cœur lui donnait ce qu'il retirait aux autres. Maintenant, posant ma bouche sur le ventre de Marthe, ce n'était plus elle que j'embrassais. C'était mon enfant. Hélas, Marthe n'était plus ma maîtresse, mais une mère. Je n'agissais plus jamais comme si nous étions seuls. Il y avait toujours un témoin près de nous, à qui nous devions rendre compte de nos actes. Je pardonnais mal ce brusque changement, dont je rendais Marthe seule responsable. Et pourtant, je sentais que je lui aurais moins encore pardonné si elle m'avait menti. À certaines secondes, je croyais que Marthe mentait pour faire durer un peu plus notre amour, mais que son fils n'était pas le mien. Comme un malade qui recherche le calme, je ne savais de quel côté me tourner. Je sentais ne plus aimer la même Marthe et que mon fils ne serait heureux qu'à la condition de se croire celui de Jacques. Certes, ce subterfuge me consternait. Il faudrait renoncer à Marthe. D'autre part, j'avais beau me trouver un homme. Le fait actuel était trop grave pour que je me regorgeasse jusqu'à croire possible une aussi folle, je pensais, une aussi sage, existence. Car enfin, Jacques reviendrait. Après cette période extraordinaire, il retrouverait, comme tant d'autres soldats trompés à cause des circonstances exceptionnelles, une épouse triste, docile, dont rien ne décèlerait l'inconduite. Mais cet enfant ne pouvait s'expliquer pour son mari que si elle supportait son contact aux vacances. Ma lâcheté l'en supplia. De toutes nos scènes, celle-ci ne fut ni la moins étrange, ni la moins pénible. Je m'étonnais du reste de rencontrer si peu de lutte. J'en eus l'explication plus tard. Marthe n'osait m'avouer une victoire de Jacques à sa dernière permission, et comptait, feignant de m'obéir, se refuser au contraire à lui, à Granville, sous prétexte des malaises de son état. Tout cet échafaudage se compliquait de dates, dont la fausse coïncidence, lors de l'accouchement, ne laisserait de doute à personne. « Bah ! Me disais-je, nous avons du temps devant nous. Les parents de Marthe redouteront le scandale. Ils l'emmèneront à la campagne et retarderont la nouvelle. » La date du départ de Marthe approchait. Je ne pouvais que bénéficier de cette absence. Ce serait un essai. J'espérais me guérir de Marthe. Si je n'y parvenais pas, si mon amour était trop vert pour se détacher de lui-même, je savais bien que je retrouverais Marthe aussi fidèle. Elle partit le 12 juillet à 7 heures du matin. Je restais à J la nuit précédente. En y allant, je me promettais de ne pas fermer l'œil de la nuit. Je ferais une telle provision de caresses que je n'aurais plus besoin de Marthe pour le reste de mes jours. Un quart d'heure après m'être couché, je m'endormis. En général, la présence de Marthe troublait mon sommeil. Pour la première fois, à côté d'elle, je dormis aussi bien que si j'eusse été seul. À mon réveil, elle était déjà debout. Elle n'avait pas osé me réveiller. Il ne me restait plus qu'une demi-heure avant le train. J'enrageais d'avoir laissé perdre par le sommeil les dernières heures que nous avions à passer ensemble. Elle pleurait aussi de partir. Pourtant, j'eusse voulu employer les dernières minutes à autre chose qu'à boire nos larmes. Marthe me laissait sa clé, me demandant de venir, de penser à nous et de lui écrire sur sa table. Je m'étais juré de ne pas l'accompagner jusqu'à Paris. Mais je ne pouvais vaincre mon désir de ses lèvres, et comme je souhaitais lâchement l'aimer moins, je mettais ce désir sur le compte du départ de cette dernière fois si fausse, puisque je sentais bien qu'il n'y aurait de dernière fois sans qu'elle le voulût. À la gare Montparnasse, où elle devait rejoindre ses beaux-parents, je l'embrassai sans retenue. Je cherchais encore mon excuse dans le fait que, sa belle famille surgissant, il se produirait un drame décisif. Revenu à F, accoutumé à n'y vivre qu'en attendant de me rendre chez Marthe, je tâchais de me distraire. Je bêchais le jardin, j'essayais de lire, je jouais à cache-cache avec mes sœurs, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 5 ans. Le soir, pour ne pas éveiller de soupçons, il fallut que j'allasse me promener. D'habitude, jusqu'à la Marne, la route m'était légère. Et ce soir-là, je me traînais, les cailloux me tordant le pied et précipitant mes battements de cœur. Étendu dans la barque, je souhaitais la mort, pour la première fois. Mais aussi incapable de mourir que de vivre, je comptais sur un assassin charitable. Je regrettais qu'on ne pût mourir d'ennui ni de peine. Peu à peu, ma tête se vidait avec un bruit de baignoire. Une dernière succion, plus longue, la tête est vide. Je m'endormis. Le froid d'une aube de juillet me réveilla. Je rentrai, transi, chez nous. La maison était grande ouverte. Dans l'antichambre, mon père me reçut avec dureté. Ma mère avait été un peu malade. On avait envoyé la femme de chambre me réveiller pour que j'allasse chercher le docteur. Mon absence était donc officielle. Je supportais la scène en admirant la délicatesse instinctive du bon juge, qui, entre mille actions d'aspect blâmable, choisit la seule innocente pour permettre au criminel de se justifier. Je ne me justifiais d'ailleurs pas. C'était trop difficile. Je laissais croire à mon père que je rentrais de J. Et lorsqu'il m'interdit de sortir après le dîner, je le remerciais à part moi d'être encore mon complice et de me fournir une excuse pour ne plus traîner seul dehors. J'attendais le facteur. C'était ma vie. J'étais incapable du moindre effort pour oublier. Marthe m'avait donné un coupe-papier, exigeant que je ne m'en servisse que pour ouvrir ses lettres. Pouvais-je m'en servir? J'avais trop de hâte. Je déchirais les enveloppes. Chaque fois, honteux, je me promettais de garder la lettre un quart d'heure, intacte. J'espérais, par cette méthode, pouvoir à la longue reprendre de l'empire sur moi-même, garder les lettres fermées dans ma poche. Je remettais toujours ce régime au lendemain. Un jour, impatienté par ma faiblesse, et dans un moment de rage, je déchirai une lettre sans la lire. Dès que les morceaux de papier eurent jonché le jardin, je me précipitai à quatre pattes. La lettre contenait une photographie de Marthe. Moi, si superstitieux et qui interprétais les faits les plus minces dans un sens tragique, j'avais déchiré ce visage. J'y vis un avertissement du ciel. Mes transes ne se calmèrent qu'après avoir passé 4 heures à recoller la lettre et le portrait. Jamais je n'avais fourni un tel effort. La crainte qu'il arrivât malheur à Marthe me soutint pendant ce travail absurde qui me brouillait les yeux et les nerfs. Un spécialiste avait recommandé les bains de mer à Marthe. Tout en m'accusant de méchanceté, je les lui défendis, ne voulant pas que d'autres que moi puissent voir son corps. Du reste, puisque de toute manière Marthe devait passer un mois à Granville, je me félicitais de la présence de Jacques. Je me rappelais sa photographie en blanc que Marthe m'avait montrée le jour des meubles. Rien ne me faisait plus peur que les jeunes hommes sur la plage. D'avance, je les jugeais plus beaux, plus forts, plus élégants que moi. Son mari la protégerait contre eux. À certaines minutes de tendresse, comme un ivrogne qui embrasse tout le monde, je rêvassais d'écrire à Jacques, de lui avouer que j'étais l'amant de Marthe et, m'autorisant de ce titre, de la lui recommander. Parfois, j'enviais Marthe, adorée par Jacques et par moi. Ne devions-nous pas chercher ensemble à faire son bonheur? Dans ces crises, je me sentais amant complaisant. J'eusse voulu connaître Jacques, lui expliquer les choses et pourquoi nous ne devions pas être jaloux l'un de l'autre. Puis, tout à coup, la haine redressait cette pente douce. Dans chaque lettre, Marthe me demandait d'aller chez elle. Son insistance me rappelait celle d'une de mes tantes, fort dévote, me reprochant de ne jamais aller sur la tombe de ma grand-mère. Je n'ai pas l'instinct du pèlerinage. Ses devoirs ennuyeux localisent la mort, l'amour. Ne peut-on penser à une morte ou à sa maîtresse absente ailleurs qu'en un cimetière ou dans certaines chambres? Je n'essayais pas de l'expliquer à Marthe et lui racontais que je me rendais chez elle. De même à ma tante que j'étais allée au cimetière. Pourtant, je devais aller chez Marthe, mais dans de singulières circonstances. Je rencontrai un jour, sur le réseau, cette jeune fille suédoise à laquelle ses correspondants défendaient de voir Marthe. Mon isolement me fit prendre goût aux enfantillages de cette petite personne. Je lui proposai de venir goûter à J, en cachette, le lendemain. Je lui cachai l'absence de Marthe, pour qu'elle ne s'effarouchât pas, et ajoutai même combien elle serait heureuse de la revoir. J'affirme que je ne savais au juste ce que je comptais faire. J'agissais comme ces enfants qui, liant connaissance, cherchent à s'étonner entre eux. Je ne résistais pas à voir surprise ou colère sur la figure d'ange de Svea, quand je serais tenue de lui apprendre l'absence de Marthe. Oui, c'était sans doute ce plaisir puéril d'étonner, parce que je ne trouvais rien à lui dire de surprenant, tandis qu'elle bénéficiait d'une sorte d'exotisme et me surprenait à chaque phrase. Rien de plus délicieux que cette soudaine intimité entre personnes qui se comprennent mal. Elle portait au cou une petite croix d'or, émaillée de bleu, qui pendait sur une robe assez laide, que je réinventais à mon goût. Une véritable poupée vivante. Je sentais croître mon désir de renouveler ce tête-à-tête ailleurs qu'en un wagon. Ce qui gâtait un peu son air de couventine, c'était l'allure d'une élève de l'école Pigier, où d'ailleurs elle étudiait une heure par jour, sans grand profit, le français et la machine à écrire. Elle me montra ses devoirs dactylographiés. Chaque lettre était une faute, corrigée en marge par le professeur. Elle sortit d'un sac à main affreux, évidemment, un étui à cigarettes orné d'une couronne comtale. Elle m'offrit une cigarette. Elle ne fumait pas, mais portait toujours cet étui, parce que ses amis fumaient. Elle me parlait de coutumes suédoises que je feignais de connaître, nuit de la Saint-Jean, confiture de myrtille. Ensuite, elle tira de son sac une photographie de sa sœur jumelle, envoyée de Suède la veille. À cheval, toute nue, avec sur la tête un chapeau haut de forme de leur grand-père. Je devins écarlate. Sa sœur lui ressemblait tellement que je la soupçonnais de rire de moi et de montrer sa propre image. Je me mordais les lèvres pour calmer leur envie d'embrasser cette espiègle naïve. Je dus avoir une expression bien bestiale, car je la vis peureuse, cherchant des yeux le signal d'alarme. Le lendemain, elle arriva chez Marthe à 4 heures. Je lui dis que Marthe était à Paris, mais rentrerait vite. J'ajoutai, « Elle m'a défendu de vous laisser partir avant son retour. » Je comptais ne lui avouer mon stratagème que trop tard. Heureusement, elle était gourmande. Ma gourmandise à moi prenait une forme inédite. Je n'avais aucune faim pour la tarte, la glace à la framboise, mais souhaitais être tarte et glace dont elle approchait la bouche. Je faisais avec la mienne des grimaces involontaires. Ce n'est pas par vice que je convoitais Svea, mais par gourmandise. Ses joues m'eussent suffi à défaut de ses lèvres. Je parlais en prononçant chaque syllabe pour qu'elle comprît bien. Excitée par cette amusante dînette, je m'énervais, moi toujours silencieux, de ne pouvoir parler vite. J'éprouvais un besoin de bavardage, de confidences enfantines. J'approchais mon oreille de sa bouche. Je buvais ses petites paroles. Je l'avais contrainte à prendre une liqueur. Après, j'eus pitié d'elle comme d'un oiseau qu'on grise. J'espérais que sa griserie servirait mes desseins, car peu m'importait qu'elle me donnât ses lèvres de bon cœur ou non. Je pensais à l'inconvenance de cette scène chez Marthe. Mais, me répétais-je, en somme, je ne retire rien à notre amour. Je désirais Svea comme un fruit, ce dont une maîtresse ne peut être jalouse. Je tenais sa main dans mes mains qui m'apparurent pataudes. J'aurais voulu la déshabiller, la bercer. Elle s'étendit sur le divan. Je me levai, me penchait à l'endroit où commençaient ses cheveux, duvet encore. Je ne concluais pas de son silence que mes baisers lui fissent plaisir. Mais, incapable de s'indigner, elle ne trouvait aucune façon polie de me repousser en français. Je mordillais ses joues, m'attendant à ce qu'un jus sucré jaillisse, comme des pêches. Enfin, j'embrassais sa bouche. Elle subissait mes caresses, patiente victime, fermant cette bouche et les yeux. Son seul geste de refus consistait à remuer faiblement la tête de droite à gauche et de gauche à droite. Je ne me méprenais pas, mais ma bouche y trouvait l'illusion d'une réponse. Je restais auprès d'elle comme je n'avais jamais été auprès de Marthe. Cette résistance, qui n'en était pas une, flattait mon audace et ma paresse. J'étais assez naïf pour croire qu'il en irait de même ensuite et que je bénéficierais d'un viol facile. Je n'avais jamais déshabillé de femme. J'avais plutôt été déshabillée par elle. Aussi, je m'y pris maladroitement, commençant par ôter ses souliers et ses bas. Je baisais ses pieds et ses jambes. Mais quand je voulus dégrafer son corsage, Svea se débattit comme un petit diable qui ne veut pas aller se coucher et qu'on dévait de force. Elle me rouait de coups de pied. J'attrapais ses pieds au vol, je les emprisonnais, les baisais. Enfin, la satiété arriva. Comme la gourmandise s'arrête après trop de crème et de friandises. Il fallut bien que je lui apprisse ma supercherie et que Marthe était en voyage. Je lui fis promettre, si elle rencontrait Marthe, de ne jamais lui raconter notre entrevue. Je ne lui avouai pas que j'étais son amant, mais le lui laissai entendre. Le plaisir du mystère lui fit répondre « À demain !» Quand, rassasié d'elle, je lui demandai par politesse si nous nous reverrions un jour. Je ne retournai pas chez Marthe, et peut-être Svea ne vint-elle pas sonner à la porte close. Je sentais combien blâmable pour la morale courante était ma conduite. Car sans doute, sont-ce les circonstances qui m'avaient fait paraître Svea si précieuse. Ailleurs que dans la chambre de Marthe, l'eussais-je désirée? Mais je n'avais pas de remords, et ce n'est pas en pensant à Marthe que je délaissais la petite Suédoise, mais parce que j'avais tiré d'elle tout le sucre. Quelques jours après, je reçus une lettre de Marthe. Elle en contenait une de son propriétaire, lui disant que sa maison n'était pas une maison de rendez-vous. Quel usage je faisais de la clé de son appartement où j'avais emmené une femme. « J'ai une preuve de ta traîtrise, » ajoutait Marthe. « Elle ne me reverrait jamais. Sans doute souffrirait-elle, mais elle préférait souffrir que d'être dupe. » Je savais ces menaces anodines, et qu'il suffirait d'un mensonge, ou même au besoin de la vérité, pour les anéantir. Mais il me vexait que, dans une lettre de rupture, Marthe ne me parlât pas de suicide. Je l'accusais de froideur. Je trouvais sa lettre indigne d'une explication. Car moi, dans une situation analogue, sans penser au suicide, j'aurais cru, par convenance, en devoir menacer Marthe. Trace indélébile de l'âge et du collège, je croyais certains mensonges commandés par le code passionnel. Une besogne neuve dans mon apprentissage de l'amour se présentait. M'innocenter vis-à-vis de Marthe, et l'accuser d'avoir moins de confiance en moi qu'en son propriétaire. Je lui expliquai combien habile était cette manœuvre de la coterie marin. En effet, Svea était venue la voir un jour où j'écrivais chez elle, et si j'avais ouvert, c'est parce que, ayant aperçu la jeune fille par la fenêtre, et sachant qu'on l'éloignait de Marthe, je ne voulais pas lui laisser croire que Marthe lui tenait rigueur de cette pénible séparation. Sans doute venait-elle en cachette et au prix de difficultés sans nombre. Ainsi pouvais-je annoncer à Marthe que le cœur de Svea lui demeurait intact. Et je terminais en exprimant le réconfort d'avoir pu parler de Marthe chez elle avec sa plus intime compagne. Cette alerte me fit maudire l'amour qui nous force à rendre compte de nos actes, alors que j'eusse tant aimé n'en jamais rendre compte, à moi pas plus qu'aux autres. « Il faut pourtant, me disais-je, que l'amour offre de grands avantages, puisque tous les hommes remettent leur liberté entre ses mains. Je souhaitais d'être vite assez fort pour me passer d'amour, et ainsi n'avoir à sacrifier aucun de mes désirs. J'ignorais que, servitude pour servitude, il vaut encore mieux être asservi par son cœur que l'esclave de ses sens. Comme l'abeille butine et enrichit la ruche, de tous ses désirs qui le prennent dans la rue, un amoureux enrichit son amour. Il en fait bénéficier sa maîtresse. Je n'avais pas encore découvert cette discipline qui donne aux natures infidèles la fidélité. qu'un homme convoite une fille et reporte cette chaleur sur la femme qu'il aime, son désir plus vif, parce que insatisfait, laissera croire à cette femme qu'elle n'a jamais été mieux aimée. On la trompe, mais la morale, selon les gens, est sauve. À de tels calculs commence le libertinage. Qu'on ne condamne donc pas trop vite certains hommes capables de tromper leur maîtresse au plus fort de leur amour. Qu'on ne les accuse pas d'être frivoles. Ils répugnent à ce subterfuge et ne songent même pas à confondre leur bonheur et leur plaisir. Marthe attendait que je me disculpasse. Elle me supplia de lui pardonner ses reproches. Je le fis, non sans façon. Elle écrivit au propriétaire, le priant ironiquement d'admettre qu'en son absence, j'ouvrisse à une de ses amies. Quand Marthe revint, au dernier jour d'août, elle n'habita pas J, mais la maison de ses parents, qui prolongeait leur villégiature. Ce nouveau décor, où Marc avait toujours vécu, me servit d'aphrodisiaque. La fatigue sensuelle, le désir secret du sommeil solitaire, disparurent. Je ne passais aucune nuit chez mes parents. Je flambais, je me hâtais, comme les gens qui doivent mourir jeunes et qui mettent les bouchées doubles. Je voulais profiter de Marthe avant que l'abîmât sa maternité. Cette chambre de jeune fille, où elle avait refusé la présence de Jacques, était notre chambre. Au-dessus de son lit étroit, j'aimais que mes yeux la rencontrassent en première communiante. Je l'obligeais à regarder fixement une autre image d'elle, bébé, pour que notre enfant lui ressemblât. Je rôdais, ravi, dans cette maison qu'il avait vue naître et s'épanouir. Dans une chambre de débarras, je touchais son berceau, dont je voulais qu'il servît encore, et je lui faisais sortir ses brassières, ses petites culottes, reliques des grangiers. Je ne regrettais pas l'appartement de J, où les meubles n'avaient pas le charme du plus laid mobilier des familles. Il ne pouvait rien m'apprendre. Au contraire, ici, me parler de Marthe, tous ces meubles auxquels, petite, elle avait dû se cogner la tête. Et puis, nous vivions seuls, sans conseiller municipal, sans propriétaire. Nous ne nous gênions pas plus que les sauvages, nous promenant presque nus dans le jardin, véritable île déserte. Nous nous couchions sur la pelouse, nous goûtions sous une tonnelle d'aristoloche, de chèvrefeuille, de vigne vierge. Bouche à bouche, nous nous disputions les prunes que je ramassais, toutes blessées, tièdes de soleil. Mon père n'avait jamais pu obtenir que je m'occupasse de mon jardin, comme mes frères. Mais je soignais celui de Marthe, je ratissais, j'arrachais les mauvaises herbes. Au soir d'une journée chaude, je ressentais le même orgueil d'homme, si enivrant, à étancher la soif de la terre, des fleurs suppliantes, qu'à satisfaire le désir d'une femme. J'avais toujours trouvé la bonté un peu niaise. Je comprenais toute sa force. Les fleurs, s'épanouissant grâce à mes soins, les poules dormant à l'ombre après que je leur avais jeté des graines, que de bonté, que d'égoïsme! Des fleurs mortes, des poules maigres, eussent mis de la tristesse dans notre île d'amour. Eau et graines venant de moi, s'adressaient plus à moi qu'aux fleurs et qu'aux poules. Dans ce renouveau du cœur, j'oubliais ou je méprisais mes récentes découvertes. Je prenais le libertinage provoqué par le contact avec cette maison de famille pour la fin du libertinage. Aussi, cette dernière semaine d'août et ce mois de septembre fussent-ils ma seule époque de vrai bonheur. Je ne trichais, ni ne me blessais, ni ne blessais Marthe. Je ne voyais plus d'obstacles. J'envisageais à 16 ans un genre de vie qu'on souhaite à l'âge mûr. Nous vivrions à la campagne, nous y resterions éternellement jeunes. Étendue contre elle sur la pelouse, caressant sa figure avec un brin d'herbe, j'expliquais lentement, posément, à Marthe qu'elle serait notre vie. Marthe, depuis son retour, cherchait un appartement pour nous à Paris. Ses yeux se mouillèrent quand je lui déclarai que je désirais vivre à la campagne. « Je n'aurais jamais osé te l'offrir, » me dit-elle. « Je croyais que tu t'ennuierais, seule avec moi, que tu avais besoin de la ville. » « Comme tu me connais mal, » répondais-je. J'aurais voulu habiter près de Mandres, où nous étions allés nous promener un jour, et où on cultive les roses. Depuis, quand par hasard, ayant dîné à Paris avec Marthe, nous reprenions le dernier train, j'avais respiré ces roses. Dans la cour de la gare, les manœuvres déchargent d'immenses caisses qui embaument. J'avais toute mon enfance entendu parler de ce mystérieux train des roses qui passe à une heure où les enfants dorment. Marthe disait « Les roses n'ont qu'une saison. Après, ne crains-tu pas de trouver Mandres laide ? N'est-il pas sage de choisir un lieu moins beau mais d'un charme plus égal ?» Je me reconnaissais bien là. L'envie de jouir pendant 2 mois des roses me faisait oublier les 10 autres mois, et le fait de choisir Mandres m'apportait encore une preuve de la nature éphémère de notre amour. Souvent, ne dînant pas à F, sous prétexte de promenade ou d'invitation, je restais avec Marthe. Un après-midi, je trouvai auprès d'elle un jeune homme en uniforme d'aviateur. C'était son cousin. Marthe, que je ne tutoyais pas, se leva et vint m'embrasser dans le cou. Son cousin sourit de ma gêne. « Devant Paul, rien à craindre, mon chéri, » dit-elle. « Je lui ai tout raconté. » J'étais gênée, mais enchantée que Marthe eût avoué à son cousin qu'elle m'aimait. Ce garçon, charmant et superficiel, et qui ne songeait qu'à ce que son uniforme ne fût pas réglementaire, parut ravi de cet amour. Il y voyait une bonne farce faite à Jacques, qu'il méprisait pour n'être ni aviateur ni habitué des bars. Paul évoquait toutes les parties d'enfance dont ce jardin avait été le théâtre. Je questionnais, avide de cette conversation qui me montrait Marthe sous un jour inattendu. En même temps, je ressentais de la tristesse, car j'étais trop près de l'enfance pour en oublier les jeux inconnus des parents, soit que les grandes personnes ne gardent aucune mémoire de ces jeux, soit qu'elles les envisagent comme un mal inévitable. J'étais jaloux du passé de Marthe. Comme nous racontions à Paul, en riant, la haine du propriétaire et le raout des marins, il nous proposa, mise en verve, sa garçonnière de Paris. Je remarquai que Marthe n'osa pas lui avouer que nous avions projet de vivre ensemble. On sentait qu'il encourageait notre amour en tant que divertissement, mais qu'il hurlerait avec les loups le jour d'un scandale. Marthe se levait de table et servait. Les domestiques avaient suivi Madame Grangier à la campagne, car, toujours par prudence, Marthe prétendait n'aimer vivre que comme Robinson. Ses parents, croyant leur fille romanesque, et que les romanesques sont pareils aux fous qu'il ne faut pas contredire, la laissaient seule. Nous restâmes longtemps à table. Paul montait les meilleures bouteilles. Nous étions gais, d'une gaieté que nous regretterions sans doute, car Paul agissait en confident d'un adultère quelconque. Il raillait Jacques. En me taisant, je risquais de lui faire sentir son manque de tact. Je préférais me joindre au jeu plutôt qu'humilier ce cousin facile. Lorsque nous regardâmes l'heure, le dernier train pour Paris était passé. Marthe proposa un lit. Paul accepta. Je regardai Marthe d'un tel œil qu'elle ajouta « Bien entendu, mon chéri, tu restes. » J'eus l'illusion d'être chez moi, époux de Marthe, et de recevoir un cousin de ma femme. Lorsque, sur le seuil de notre chambre, Paul nous dit bonsoir, embrassant sa cousine sur les joues le plus naturellement du monde.